Bonjour, ici Radio Grand Ciel, studio de Châteaudun. Dans le cadre de nos émissions Histoire et Mémoire, nous accueillons aujourd'hui Jean-Claude qui va nous parler de l'épisode de l'émigration des Espagnols lors de la guerre d'Espagne en 1939, émigration en particulier vers notre pays, la France. Bonjour Jean-Claude, ici Henri au micro.
Bonjour. Oui, donc en 2019, il y a 80 ans, l'Europe a connu le plus grand mouvement migratoire de ses débuts du XXe siècle à notre porte, de l'autre côté des Pyrénées, ce que les Catalans et les Espagnols appellent la retirada. C'est-à-dire, c'est un mouvement qui a jeté sur les routes des centaines de milliers d'Espagnols pour fuir les combats. Et cette guerre civile espagnole était, hélas, les prémices de la Deuxième Guerre mondiale. L'Espagne, en ces années 30, est pauvre. 8 millions de personnes sont dans la misère, soit 30% de la population. On dit que l'Espagnol se couche sans dîner, tellement il est pauvre. Le peuple souffre. Le roi d'Espagne, Alphonse XIII, se retire sous la pression populaire qui bouscule les élections municipales. Et le 14 avril 1931, la Seconde République est proclamée. Mais les nouveaux dirigeants ne sont pas prêts à assumer le pouvoir. Les militaires vont tenter de reprendre le contrôle du pays. En 1932, par un putsch qui échoue lamentablement. Et si le général Sanjurjo est reconnu coupable et condamné à mort, le général Franco, qui dans l'ombre avait participé à ce putsch, aura cette phrase terrible. « Général, vous avez gagné le droit de mourir, non pas pour vous être soulevé, mais parce que vous avez échoué. » La peine sera commis en prison à vie, mais gracié, il est libéré en 1934 par ses amis les nationalistes qui sont revenus au pouvoir par les élections législatives. Et on peut noter, à cette époque, en 1933, les femmes en Espagne votaient pour la première fois. En 1934, 20 provinces vont se soulever, dont la Catalogne et les Asturies, pays miniers. C'est la violence. 58 édifices religieux sont détruits. 34 religieux assassinés. C'est Robles, admirateur d'Adolf Hitler et de Mussolini, qui a la main et fait intervenir les troupes coloniales du Maroc, dirigées par le général Franco, les fameuses Banderas. En juillet 1936, c'est le Front populaire espagnol. 5 mois avant le Front populaire français, qui amena les grèves de 1936. Il faut savoir qu'à cette époque, en France, en 1936, il n'y avait pas de congés payés. Et, par exemple, à Châteaudun, les ouvriers de Picard-le-Bas travaillaient 7 jours sur 7 et 12 heures par jour. 1936 amena les congés payés et la semaine de 40 heures. Les Républicains en Espagne, à nouveau, remportent les élections de 1936. Nouveau punch avorté des généraux avec encore Sanjurjo. Cela met le feu aux poudres et c'est la guerre d'Espagne qui commence. C'est la violence. Les Républicains révolutionnaires refusent cette droite dure. Les casernes sont attaquées. Le clergé violenté. 4184 prêtres. 2365 religieux, 13 évêques, 243 religieuses sont assassinées. 300 édifices du culte sont détruits. À Figueres, pays de Salvador Dali, à 30 km de la frontière française, le couvent des religieuses françaises est incendié. Dès 1936, des jeunes Espagnols vont être dirigés vers la France pour fuir les combats. Il en arrive 300 à Blois, notamment à la Halle aux Grains. Alors, il faut savoir que la guerre d'Espagne qui va se dérouler est quelque chose de terrible. C'est 200 000 morts au combat, 100 000 disparus, 100 000 exécutions, 300 000 morts de la famine et 500 000 expatriés. C'est extraordinaire pour l'époque. Le lundi 26 avril 1937, c'est l'horreur. 4 escadrilles de Junkers 52 de la division allemande Condor, appuyées par des chasseurs italiens, attaquent la petite ville basque de Guernica, jour de marché. Il est 4h30 de l'après-midi, comme on dit en ce temps-là. Des braves gens qui font leur marché, des femmes, des enfants, des hommes, des personnes âgées. Les avions, par vagues jusqu'à 20h, vont lâcher les bombes incendiaires, mitraillées. Le bilan est lourd. 1654 morts et 800 blessés. Picasso immortalisera ce massacre avec son gigantesque tableau de Guernica, 8 mètres par 4. Abbès, ambassadeur d'Allemagne en France, voyant ce tableau à Paris, pose la question à Picasso. C'est vous qui avez fait cela ? Non, répondit Picasso, c'est pas moi. C'est vous, monsieur. On accusera Franco d'être instigateur de cet acte criminel et François Mauriac, dans La Croix, s'indignera. Guernica est un assassinat de braves gens. C'est un nouvel exode vers la France et le département voisin du Loir-et-Cher accueille 300 Espagnols dans les communs du château de la Gaudinière à la ville au Clair, au sud de Châteaudun, en avril 1937. Ce sont les prémices de la Seconde Guerre mondiale. Aux côtés des troupes de Franco, il y a 50 000 soldats italiens, avec 700 avions et 800 chars. Il y a 1000 avions allemands et des chars. L'appui du Portugal, alors que les républicains sont soutenus par la Russie, avec des tanks, des canons et 2000 conseillers. Le Mexique, les brigades internationales, 40 000 hommes. 53 pays sont engagés. Malraux fera le coup de feu et écrira l'espoir. Saint-Exupéry, journaliste à Paris, couvrira ce drame et publiera Terre des hommes. Hemingway écrira Pour qu'il sonne le glas. Des deux côtés, phalangistes et républicains sont déterminés et le sang coule. Mieux vaut condamner 100 innocents que d'absoudre un seul coupable, dira Dolores Ibarruri, la passionnaria communiste espagnole, qui rejoindra la Russie en 1939 et dont le fils sera tué à Stalingrad. Elle reviendra en Espagne après la disparition de Franco et sera députée. Les Rouges inquiètent toute l'Europe et à choisir, la France et l'Angleterre, comme à Munich, attendent. Des accords secrets auraient été passés entre l'ambassadeur de France auprès de Franco, qui s'appelait Philippe Pétain, ce qui vaudra peut-être le non-alignement de l'Espagne avec Hitler. Le 26 janvier 1939, une date extrêmement importante, Barcelone tombe. Les républicains sont en déroute. Franco est maître de la Catalogne. C'est la ruée vers la frontière française qui reste fermée aux Espagnols. Plus de 100 000 femmes, enfants, vieillards sont aux portes de la France, affamées, meurtries, dans le froid de janvier. Daladier va donner l'ordre d'ouverture de la frontière le 27. Mais c'est seulement pour les civils. Et un filtrage des gardes mobiles et du 24e régiment de travailleurs sénégalais, est terrible. Les réfugiés doivent laisser leur argent, leurs bijoux, toute valeur appartenant à l'Espagne. Dans les deux semaines qui vont suivre, ce sont 500 000 Espagnols qui vont se presser aux postes aux frontières, de Cerbère, de Banyuls, au Pertus, au Col des Arts et la petite ville de Prat de Molo, qui va voir défiler 100 000 Espagnols, alors que la ville compte 2 000 habitants.
Une question, Jean-Claude. Les bijoux, tout ça, c'était les Français qui les ont récupérés ou ils les laissaient chez eux pour lorsque les gardes frontières on les ont filtrés?
Alors, lorsque les gardes frontières les ont laissés passer, on peut dire,
oui.
Dans un premier temps, ils ont été accueillis par la population parce que le gouvernement français n'avait pas prévu un afflux pareil de réfugiés. Donc, il y a eu, par le peuple catalan, une grande solidarité, mais a été vite débordée. Quand la petite ville, le Prat de Molo, à côté du Col des Arts, qui a 2 000 habitants, 2 500 habitants, voit arriver 100 000 personnes en une semaine, c'est impossible. On ne peut pas les nourrir. C'est une véritable catastrophe humanitaire.
Tu parlais de leurs bijoux, ils les ont laissés en Espagne alors, pour
oui,
pas qu'ils se soient volés en France.
Tout à fait, c'était dans l'accord qui avait été signé avec la France. Les Espagnols pouvaient sortir d'Espagne, mais ne rien emporter comme valeur.
Et on va maintenant faire une petite pause musicale un peu plus gaie. C'est tiré de Carmen de Georges Bizet. Ça, c'était pour nous remonter un peu le moral. Et comme tu racontes, ce qui s'est passé en Espagne à cette époque, actuellement, on voit la même chose dans d'autres pays du monde. C'est toujours des pays qui s'associent les uns contre les autres. Et puis, en conséquence, des peuples qui sont très malheureux et puis qui migrent qui essayent de migrer pour que ça aille pour sauver leur vie.
Tout à fait. Et il faut savoir que c'est simplement le 5 février que le gouvernement français va laisser entrer les combattants républicains vaincus. Geste humanitaire, car les soldats républicains tombés aux mains des nationalistes sont immédiatement passés par les armes sans jugement. Franco ayant refusé une zone neutre entre Andorre et Portbou. Plusieurs années après encore, on jugera, on fusillera des républicains. Des charniers seront encore mis à jour au début de 2019. Cette affluence a surpris le gouvernement français qui croyait au maximum avoir 40 000 Espagnols. Il en a eu 500 000. Alors Daladier décide l'internement des étrangers indésirables. Et Albert Sarro, ministre de l'Intérieur, s'exprime « En ces circonstances, ce ne seront pas des centres d'accueil ni des lieux pénitentiaires » mais des camps de concentration. On ouvre à la hâte les camps d'Argelès, Saint-Cyprien, le Barcarès. En ce mois de février, on entasse sur la plage nord d'Argelès 40 000 personnes, hommes, femmes et enfants. La seule protection que fournit le gouvernement français, ce sont des barbelés et des gardes sénégalais. Avec interdiction de sortir du périmètre, et les hommes doivent rester debout toute la journée sous peine de brimade. Il n'y a rien de prévu. Pas de sanitaire, pas de baraque, pas de tente pour dormir. Les réfugiés creusent des trous dans le sable et se couvrent avec ce qu'ils peuvent. Il n'y a pas de ravitaillement prévu aussi peu. Plusieurs centaines d'enfants vont mourir, souvent de la typhoïde et de la diphtérie. Si le cimetière espagnol d'Argelès recense les noms des adultes sur un monument, à l'endroit où ils ont été inhumés, le nom des enfants a été perdu. C'est aujourd'hui un lieu de mémoire, à quelques centaines de mètres de la plage, où les touristes se pressent chaque année pour se faire bronzer, en ignorant qu'en ces lieux, des hommes et des femmes, des enfants, ont souffert jusqu'à en mourir. Alors sur cette plage, sur un rocher, gravé dans le marbre, on peut lire « À la mémoire des 100 000 républicains internés au camp d'Argelès lors de la retirada de 1939. Leur malheur est d'avoir lutté pour défendre la démocratie et la République contre le fascisme de 1936 à 1939. Homme libre, souviens-toi. » Rapidement, le camp d'Argelès est saturé et on va créer à quelques kilomètres plus au nord le camp de Saint-Cyprien, qui accueilla 90 000 Espagnols, puis quelques indésirables, des Juifs allemands ou autrichiens qui avaient fui le régime nazi. Le camp de Haine accueillera les prisonniers franquistes qui sont arrivés avec les républicains. La police française n'a pas su faire le tri à la frontière. Amélie Desbains, on va évidemment accueillir les 100 000 réfugiés, parce que de chaque côté de la frontière, qui est à 4 kilomètres, on est catalan. Jusqu'au traité des Pyrénées, la Roussillon faisait partie de la Catalogne. Et c'est ce traité des Pyrénées qui a coupé en deux la Catalogne. Mais de cœur, les Catalans du Nord, les Roussillonnais, ils sont restés catalans. Donc, ils accueillent leurs frères. Et à l'époque, le maire de Haine, petite ville près de la frontière, Louis Marceroux, va s'exprimer. « Mes chers compatriotes, je veux goûter la joie après tant d'angoisse et vous exprimer tous mes remerciements pour la bonté, la générosité dont vous avez fait preuve lors du drame espagnol. Ce fut un drame triste et poignant, pitoyable et tragique, où se déployait comme un manteau hallucinant un immense et interminable lambeau d'humanité abandonné, repoussé, traqué par des éléments irrésistibles. Pendant 4 jours et 4 nuits, sans discontinuer, comme une poulie sans fin, se sont succédé des cortèges de misère et de résignation accablés. Il semblait que l'on touchait au fond même du mal. Il a paru impossible de reculer plus loin la limite de la détresse. Dans son enfer, Dante n'a rien vu et les soirs ne nous offrent rien de comparable. Vous avez assisté le cœur saignant, mais non impuissant, passé la première stupeur. Vous êtes précipité au secours, ne considérant qu'une chose, des hommes qui avaient faim et souffraient. Vous les avez nourris, soignés, consolés. J'en sais parmi vous qui, non contents de se dépouiller, se sont endettés. J'en sais qui, non contents de s'apitoyer, n'ont pas hésité devant le risque d'encourir eux-mêmes la pitié des autres. J'ai recueilli des témoignages de dévouement et d'abnégation, parfois héroïques. C'est grand, noble, digne. Indifférent à toute considération, vous n'avez laissé parler que votre cœur, et du fond du mien, je vous dis bravo et merci. » Et le maire de Prat-de-Molló ajoutera « Ce spectacle pitoyable et tragique des réfugiés espagnols, héroïques défenseurs de la liberté républicaine, devant l'insuffisance de leur installation et leur insécurité dans leur existence dans le camp de concentration, demande que les autorités responsables fassent tous les travaux pour assurer des conditions de vie humaines. Nous demandons au gouvernement de respecter les droits de l'homme, la liberté, la condition et la dignité humaine. »
Merci pour ce beau témoignage que nous allons bientôt continuer après une nouvelle pause musicale.
Voici ta bouche, 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 vo
des mesures vont être prises pour libérer ces camps à la frontière. On va les acheminer vers 70 départements français, dont l'Eure-et-Loire, avec le camp de Lucé, avec celui de Châteaudun et son hôpital, où on va réserver 5 places. C'est pas beaucoup. Mais enfin, Vov et les fameux compagnies travailleurs espagnols qui vont participer au déménagement du camp de munitions de Châteaudun en 1940 vers la forêt de Fredval. 30 000 seront envoyés dans des camps de travail en Algérie. 100 000 seront envoyés en Espagne. Certains, à peine arrivés, seront fusillés. 15 000 au Mexique. En 1939, à Brouilla, petite commune des Pyrénées-Orientales, une jeune institutrice suisse, Elisabeth Edenbenz, devenue infirmière, qui était déjà intervenue au cours de la guerre d'Espagne dans le cadre de la Croix-Rouge, prend en charge les jeunes femmes espagnoles sur le point d'accoucher et ouvre une petite maternité. Mais bien vite, cet établissement est trop petit. Elle va le transférer à Elne, la maternité de Elne, qui aujourd'hui se visite. 600 enfants vont naître dans cette maternité, 400 petits espagnols et plus tard 200 bébés juifs, issus des camps de Saint-Cyprien et Rivesaltes, qui porteront des prénoms espagnols à l'état civil, une fausse identité. Certains partiront vers la Suisse par des transports clandestins. Elisabeth fera un travail extraordinaire. Mais elle sera remerciée à la libération par la Croix-Rouge suisse parce qu'elle n'a pas respecté les règles de procédure du régime allemand en faisant naître des petits juifs dans cette maternité. Quand elle sera licenciée de la Croix-Rouge, elle ira aider les jeunes femmes autrichiennes victimes de la brutalité des soudards des troupes de choc soviétiques. 1 million d'Allemandes ou autrichiennes subiront ces souffrances. 1 million. En janvier 1941, le camp de Rivesaltes va aussi être un dernier camp espagnol ouvert, dit camp de regroupement familial, où dans la logique française, on séparera les hommes et les femmes et les enfants. Ça s'appelait un regroupement familial. Enfin, sur les 20 000 internés qui resteront en visite, il y a moitié espagnol, le reste seront des juifs. On appelle le camp de Rivesaltes le camp de Drancy de la zone libre. Et quelques tziganes. Les Allemands entrent en zone libre le 11 novembre 1942, évacuent le camp, déportent les juifs vers Drancy et les camps d'extermination. En Pays du Noir, on se souvient. Thomas Divy est né en 1904 à Gérone, plein pays catalan, le 2 octobre, la même année que Dali. Ce dernier fera allégeance au Codillo. Divy sert dans l'armée républicaine, passe en France en février 39 et est interné au camp d'Argelès, puis dans celui du Barcarès. C'est un boulanger de Perpignan qui lui fait parvenir de quoi dessiner. Il va donc produire des dessins de la retirada et des camps. Il l'introduit auprès de Jean Moulin. Ils échangent des courriers. Il le fait évader pour rejoindre le camp de Lucé et entrer en contact avec Jean Moulin qui va le faire passer à Châteaudun. À Châteaudun, il va travailler comme mouleur à la Polstra, puis à l'EPL, où il va passer un CAP de fraiseur. Et à la Libération, il deviendra dessinateur chez Louis Hainaut. Marié à la fille du menuisier de la rue Forage, Crépeau, il restera toujours fidèle à ce quartier, rue de la Rainville, rue Forage, rue de Jalan, avec un petit atelier rue du Chandé. Michel Breton, un de ses élèves, après son décès, dira ceci. La mort d'un individu n'intervient que lorsque sa mémoire a disparu. L'homme à la cape qui fréquentait l'escale n'a pas disparu des mémoires du Noise. Alors Châteaudun connaîtra d'autres Espagnols, enfin des Catalans, comme Jean Torres, footballeur bien connu des années 60, qui lui est venu bien après. Mais son épouse, Ramona, qui habite encore Cité des Graviers, aujourd'hui, a participé à la retirada. Son papa républicain était passé, en 39, par Argelès, pour se poser à Vendôme et refaire sa vie à Saint-Léonard-en-Beauce lorsque sa famille le rejoindra. Ramona est passée en France avec sa famille, mais, pour des raisons qu'elle ignore, on a expédié, après quelques mois, toute la famille en Espagne. Et bien sûr, comme à l'exode de 1940, lorsqu'ils sont revenus à 10 km de Barcelone, la maison avait été pillée. Un autre footballeur, Beltran, footballeur vedette de l'AEJ Châteaudun puis de l'OCC, est arrivé en Eure-et-Loir au mai. Il a été très bien accueilli par la population. Il est retourné en Espagne après la mort de Franco. Plus tard, on pourrait citer Fornells, Luis, Cloisien, un maçon qui travailla aussi à la Polstra. Il avait connu les camps d'Argelès et de Barcarès. Les plaies se sont refermées dans la Catalogne. Si aujourd'hui on découvre encore des charniers des répressions francistes, les Catalans maintiennent la pression avec des expositions en 2019 pour les 80 ans de la retirada sur la Catalogne libre. Cette année au Boulou, à Villefranche-de-Conflent, on racontait cette histoire. Et leur leader encore actuel, catalan, Puigdemont, qui est en exil en Belgique, et dans un village dont on ne dira pas le nom, mais on le reconnaîtra. Dans un village, une morne plaine que Victor Hugo a cité dans Les Châtiments. Cette page d'histoire nous rappelle que l'Europe est un peuple d'hommes et de femmes qui souhaitent vivre en paix. Qu'une guerre ne sert à rien et qu'à la fin, comme tous les dimanches, on finira par se serrer la main.
Merci pour cette évocation qui du passé, mais qui rappelle également le présent et comment faire, comme tu dis, pour s'unir pour que la paix revienne de façon plus durable. À bientôt, chers auditeurs, chères auditrices.